Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site lesherosdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Rollin. François, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors François, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur les sujets de la vente ?
Eh bien, écoute, je pense que c'est intéressant pour une simple raison, c'est que je pense que la vente, ça doit être mon point d'ikigai. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'adore ça. Alors, je suis tombé dedans quand j'étais, pas quand j'étais petit, mais quand j'étais petit professionnellement. Et je fais ça depuis 1990. Donc, je suis passionné par ça. J'adore vendre. Et j'adore presque toutes les étapes de la vente. Je suis bon là-dedans. Tu verras, j'ai rien essayé d'autre. Donc non, j'exagère. Mais je performe bien. Je pense avoir bien compris un certain nombre de choses dans ce domaine-là. Et puis, pour faire le troisième point de l'ikigai, je pense qu'on manque de compétences en vente de façon générale. Moi, je rencontre beaucoup de pas très bons vendeurs et vendeuses dans ma vie. Et pourtant, c'est juste indispensable parce que si tu ne vends pas, tu ne fais pas de chiffre d'affaires. L'entreprise ne dure pas très longtemps. Et donc, je pense qu'il y a du boulot à faire là-dessus. Et ce n'est pas spécifiquement propre à la France parce que j'ai exercé dans différents pays. Mais assez spécifiquement en France quand même, parce que on n'est pas un pays qui aime beaucoup le vendeur, quoi, ou la vendeuse, ou l'acte de vente, pour plein de raisons, qu'on évoquera peut-être d'ailleurs.
Ouais, justement, tu vas nous en parler, hein. Tu me fais un bon teasing de l'épisode, mais aujourd'hui, on va parler plutôt de posture commerciale, de comportement commerciaux, et on va parler notamment des limites qu'ont les commerciaux pour vendre. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'était comment dépasser vos limites pour mieux vendre. Pourquoi tu voulais nous parler de ça spécifiquement aujourd'hui, François ?
Écoute, peut-être avant ça, juste deux mots sur ce qui je suis, comment je suis arrivé à tomber dans la vente. Ça permettra peut-être d'expliquer un peu mieux le contexte de tout ça. Donc moi, en fait, j'ai commencé, donc je viens de le dire, en 90, et j'ai commencé en Allemagne, à l'époque, dans un grand groupe qui n'existe plus d'ailleurs, qui est un groupe chimique qui s'appelait Rondpoulin. Enfin, c'était une filiale du groupe, et je travaillais en Allemagne, à Francfort, j'y suis resté 5 ans, et je commercialisais des produits très techniques, des membranes de filtration tangentielle, ça existe toujours d'ailleurs, ça. Enfin, plus chez Rondpoulin, mais ça existe toujours. Et en fait, j'ai pas eu de formation. J'ai eu une formation au produit. C'est d'ailleurs assez typiquement français. J'ai eu une formation au produit, ingénieur, machin. On m'a expliqué comment ça tournait, etc. Mais on m'a pas expliqué comment on faisait pour aller chercher des clients. J'ai été plongé directement dans la marmite puisque quand j'ai posé la question à mon chef comment on fait pour vendre, il m'a dit écoute, tu te débrouilles, tu y arriveras bien. C'est pas compliqué et ma porte sera toujours ouverte. Bon, on remarque que sa porte était déjà ouverte, c'était déjà bien, il m'a aidé en effet, mais surtout techniquement. Et sur la vente, je me suis débrouillé et je pense pas que ce soit la meilleure des façons d'onboarder, comme on dit aujourd'hui, des commerciaux. Mais moi, je pense que ça m'a convenu parce que finalement, je suis un être assez libre. De toute façon, quand t'as pas le choix, c'est quand. Quand on te jette dans la piscine, tu apprends à nager, quoi.
Donc, alors, l'école de vente allemande, c'est intéressant. Il y a des bonnes pratiques à copier.
Je pense que les Allemands ont un côté beaucoup plus pragmatique que les Français. Ils sont très axés, en plus c'était des produits techniques, donc ils sont très axés sur les caractéristiques techniques des produits. D'ailleurs, quand tu vas dans un salon en Allemagne, les pancartes, enfin les posters, c'est toujours rempli de mots, etc. Donc les Allemands, ils sont très, très, très dans l'argument, en fait. Et finalement, bah, moi, je faisais la différence parce que j'étais français, en fait. Et le français, on a une capacité à être moins sur l'autoroute, c'est la fameuse Autobahn allemande. Nous, on arrive à trouver des moyens parfois de faire marcher des choses alors que sur le papier, ça ne devait pas marcher. Et puis, moi, je pense que la vente, on dit souvent convaincre dans la vente. Moi, je pense plus que la vente, c'est persuader. Et persuader, ça ne se fait pas qu'avec la tête. Ça se fait aussi avec le cœur, avec les tripes. Et je pense que quand tu arrives à développer ça, et ça, ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, mais ça l'est peut-être encore plus en Allemagne où les gens restent bien dans les clous. Le fait d'y mettre un petit peu sa touche, d'apporter... Moi, j'ai un accent en français quand je parle allemand. Je pense que j'arrivais du coup à faire la différence. Et puis, il y a un autre truc aussi, mais ça, ce n'est pas propre à l'Allemagne, c'est que quand tu vends à l'étranger et que tu ne vends pas dans ta langue, eh bien, t'écoutes mieux parce que les paroles ne te coulent pas dans l'oreille et puis tu es obligé quand même de te concentrer un peu plus. Et donc, du coup, je pense que tu performes mieux indirectement.
Oui, tu laisses parler également peut-être plus. J'ai peur de dire des bêtises à ton prospect. Ok, écoute, merci pour cette présentation, François. Donc, je reviens sur notre sujet. Pourquoi tu voulais nous parler aujourd'hui des limites des commerciaux?
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Donc, c'est qu'en fait, dans 90% des cas, les freins à la vente, c'est quelque chose auquel je me suis pas mal confronté. J'ai questionné des vendeurs, des bons et des moins bons, ou des débutants d'ailleurs, des débutants et des confirmés, sur ce qui faisait qu'ils n'arrivaient pas bien à vendre. Et en fait, je me suis rendu compte que 90% des freins à la vente venaient en fait de la personne qui fait la vente. Y a plusieurs raisons. La première, c'est ses capacités, ses compétences. Donc ça, ça peut se corriger par des formations. Il y a d'excellents formateurs qui savent enseigner des techniques de vente. Il y en a plein les bouquins également. Donc on peut au moins expérimenter là-dessus. Donc ça peut se corriger. Les comportements, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a des gens qui pensent qu'il y a des règles dont on peut s'affranchir. Tu vois, par exemple, arriver en retard à un rendez-vous, il y a certains vendeurs qui trouvent que c'est pas anormal. Arriver en retard sans avoir prévenu qu'on était en retard non plus. Et quand tu tombes sur un acheteur ou quelqu'un qui s'intéresse à ton produit, qui a une vieille barbe comme moi et qui a eu l'habitude, qui a connu cette époque où on allait voir les clients avec un costume et une cravate et qui respectait, alors surtout en Allemagne, pour revenir là-dessus, qui respectait l'heure, c'est vrai que tu te tires déjà une balle dans le pied au départ. Donc ça, c'est les problématiques de comportement. Je pense que ça peut aussi se corriger avec un bon formateur qui se mettra à côté du commercial et qui lui fera comprendre que bon, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Mais pour moi, là où il y a véritablement un gros travail à faire, c'est sur ce que j'appelle les pensées limitantes, les pensées tout court, en fait, qui souvent sont limitantes, parce que les pensées, elles viennent de ton cerveau, et ton cerveau, il a été programmé pour te protéger, donc il te protège de tous les dangers. À l'époque où il a été créé, le cerveau, c'était à l'époque où il y avait des mammouths, il y avait des dangers dans tous les coins, et puis l'humain n'est pas... l'humain est... finalement assez mal adapté à la vie dans la nature. On ne court pas vite, on ne grimpe pas aux arbres, on n'est pas très bon, en fait. Donc, c'est notre cerveau qui est venu se développer, qui nous a aidés, qui nous met en défaut, qui nous prévient des dangers. Mais du coup, le cerveau, il a un peu tendance à voir les choses de façon négative et donc à nous créer un monde qui n'est pas très rassurant et qui, du coup, a plutôt tendance à nous freiner qu'à nous faire accélérer. Et c'est ce que j'appelle les pensées limitantes, donc les pensées typiquement limitantes. Tu vois, par exemple, un débutant qui va te dire « Ah ben moi, je ne sais pas vendre. Bon, » ce qui ne veut rien dire, parce qu'en fait, on vend depuis la naissance. Une partie de la vente, c'est la négociation. tu passes ton temps à négocier dans la vie. Hein. Tu négocies avec tes parents, tu négocies avec tes copains, tu négocies avec ta femme, avec ton mari, etc. Donc voilà, donc, tout le monde sait vendre foncièrement. Mais on a cette idée qu'on ne sait pas vendre, on n'y arrive pas, on a peur du téléphone, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, je m'énerve pour ci. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on se met ses propres limites, ses propres freins. Et puis, à force de penser ça, ben on finit par s'en persuader. Donc, ça devient une croyance limitante. Et puis, quand la croyance est tellement forte dans ta tête, ça devient une vérité. Donc, tu es persuadé que c'est comme ça et pas autrement. Et ben, c'est d'ailleurs comme ça que se sont développées les religions. Hein. Quand tu as des vérités dans ta tête, ben, tu as du mal. C'est très difficile par toi-même de t'en rendre compte puisque c'est devenu quelque chose qui est vrai. Et pour moi, le seul moyen d'arriver à parer à ça, bah, c'est de faire un travail sur soi-même et idéalement bah, de le faire avec un coach. Et c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Je me définis comme un préparateur mental. C'est comme ça que j'explique ça, parce que coach, c'est un mot un peu galvaudé. Où en fait, justement, on va travailler vraiment spécifiquement sur ces limites que les gens qui exercent le métier de la vente se mettent eux-mêmes.
Très bien. Alors, l'influence des pensées et croyances limitantes, je comptais en parler, on va dire, plutôt à la fin de notre entretien. Tu veux qu'on approfondisse tout de suite le sujet ou on en reparle tout à l'heure?
Je te laisse mener l'entretien. Donc, ouais. je me plie à ta discipline.
Ok, bah écoute, je pense que ça va être un peu le fil rouge hein, de l'entretien, mais donc on en reparlera tout à l'heure, mais okay. À mon avis, tu vas nous en parler au fur et à mesure. Sur les limites, tu as parlé des compétences, des comportements, des pensées limitantes. Il y a aussi une limite sur la partie process, structure, qui est très importante chez les commerciaux. Mais souvent qui manque hein, dans les fondamentaux des commerciaux. Selon toi, comment on peut pallier le manque de structure et de process quand on est commercial, c'est-à-dire on arrive dans une boîte et puis on ne sait pas trop par où commencer.
Ben, en fait, le problème souvent chez les commerciaux, c'est que une des premières qualités d'un commercial, c'est le relationnel. Tu es un bon relationnel pour être un bon commercial, puisque commercer, enfin vendre, c'est entrer en relation avec quelqu'un. J'en parle d'ailleurs dans un de mes épisodes de la Voix de la Vente. Pour bien commercer, il faut faire conversation. Donc, pour faire conversation, il faut créer du relationnel. Donc, en règle générale, les gens qui se définissent ou qu'on définit comme étant des bons vendeurs, c'est des gens qui sont bons au niveau relationnel. Donc, ils sont à l'aise dans la conversation, à l'aise pour se présenter, qui arrivent à trouver le bon mot, enfin, qui rebondissent assez facilement, etc. Et souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire que le gars ou la jeune femme, d'ailleurs, est bon ou bonne en présentation, mais ne va pas plus loin que ça. C'est un peu, donc j'y vais non préparé, comme dirait Dubosc à la One Again, ça va le faire. Je joue sur mon talent en fait, parce que c'est un talent, mais un talent qui n'est pas travaillé et qui n'est pas sous-tendu par une discipline, bah c'est un talent qui est mal exploité en fait. Tu sais, moi je fais souvent le parallèle avec le sport. Tu prends un Zidane, tu prends un Ronaldo ou aujourd'hui un Haaland ou un Mbappé, c'est des gars qui naturellement sont vraiment doués dans leur domaine, mais qui bossent comme des acharnés quoi, et qui s'astreignent à une discipline, laquelle discipline n'est d'ailleurs pas qu'une discipline mentale, c'est aussi une discipline physique, et je pense que dans la vente c'est pareil. Donc il y a ça, et puis ensuite donc, arriver à dépasser ce truc-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que la vente, c'est un process. Il y a différentes étapes. D'ailleurs, on parle d'un cycle de vente. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et tu n'as pas les mêmes compétences suivant l'endroit dans lequel tu es dans le cycle de vente. Il y a des moments où il va falloir que tu écoutes. De toute façon, c'est toujours bien d'écouter tout au long du cycle de vente. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que le client, à un moment donné, te redonne une information qui peut tout changer ou te permettre de voir les choses différemment. Mais il y a des moments où il va falloir que tu t'imposes, des moments où il va falloir que tu écoutes, des moments où il va falloir que tu te battes en interne. Là, je parle pour des vendeurs professionnels qui travaillent dans les entreprises, pour vendre en interne ton client, ce qui est parfois plus compliqué que vendre en externe. Donc, il y a plein de qualités différentes à avoir et ça se travaille et ça se structure.
Ouais. Alors moi, c'est vrai que quand j'avais des équipes de commerciaux, pour les aider à se structurer, je leur passais ce que j'appelais un playbook de vente avec, si tu veux, les différentes étapes. Tu as parlé de process, donc les différentes étapes du processus commercial, les outils, même les discours à tenir. Est-ce que tu as des choses comme ça, toi, que tu mets en place avec tes clients ou avec des documents? Est-ce que tu as des outils que tu utilises?
Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus une posture de coach. Donc, le coach, ce n'est pas un mentor. Okay. Ça, pour moi, c'est le travail du... Enfin, une entreprise doit avoir un process de vente aussi. Il y a une stratégie commerciale, un process de vente, etc. Moi, après, ce qui m'intéresse plus dans le travail qui est en fait complémentaire de celui qui exerce le directeur commercial, c'est de faire prendre conscience... Dans la structure, il y a aussi la structure de la personne. Une personne structurée, c'est aussi une personne qui se connaît, qui sait comment elle va réagir. On est fait de chair et d'os, et puis de sentiments, d'émotions, etc. Ce qui est important, c'est de savoir comment on va réagir, comment on va s'adapter, etc. Donc, le process de vente avec tous les documents, oui, en effet, bien entendu, il faut les avoir. Mais après, c'est comment moi, en fonction de ma personnalité, je vais réussir à m'adapter à ça et comment je fais ce travail avec ou sur moi-même pour m'adapter à ça et passer de l'argument, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, à la persuasion. C'est-à-dire en fait cette capacité que tu as à exprimer ton enthousiasme. Tu vois, par exemple, moi je ne peux pas concevoir qu'un commercial vende un produit qu'il n'aime pas. Je ne vois pas comment tu peux faire. On doit y arriver, mais il faut avoir il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Tu dois transmettre autre chose que des caractéristiques techniques. Et c'est d'ailleurs, pour moi, la différence aujourd'hui, en 2024, à une époque où tu as en face de toi des acheteurs ou des techniciens qui vont prendre une décision par rapport à ton produit, où ils ont toutes les informations avant que le commercial arrive, avec Internet, avec le marketing digital, etc. Tu connais déjà toutes les caractéristiques du produit. Le commercial qui fait la différence, c'est celui qui va réussir à expliquer en quoi il sera là quand il y aura un problème, en quoi il saura défendre le client dans sa propre entreprise, et puis en quoi le client peut lui faire confiance. Et ça, ce n'est pas de l'argumentaire.
Très bien. Ben justement, on passe à... Donc, on a parlé de structure, process, discipline, également relationnel. Et il y a aussi un autre plan qui, effectivement, sort de l'argumentaire, qui est plutôt une partie émotionnelle. Et je voulais te demander comment, quand on est commercial, mieux gérer ses émotions dans un cycle de vente, en sachant que les auditeurs doivent le vivre quotidiennement. On passe par plein d'émotions quand on est dans un cycle de vente.
Ouais. Oui, alors moi, je pense qu'on ne gère pas les émotions. Les émotions, c'est pas quelque chose qu'on bannit. En fait, ce qu'on gère, c'est l'expression de l'émotion. Une émotion, en fait, ça vient de ex, qui veut dire sortir, et puis motion, enfin movere en latin, qui veut dire se mouvoir. Une émotion, c'est en fait quelque chose qui te renseigne sur toi, qui est un besoin non satisfait. Donc, l'émotion, la peur, ta peur parce que il y a quelque chose qui te choque, tu t'y attendais pas, paf, du coup, ton corps va réagir, peur, et en général, la peur provoque, enfin, l'émotion va provoquer une réaction, la réaction de la peur, c'est en général Il y en a plusieurs, mais une, ça consiste à prendre ses jambes à son cou, partir, ou se figer, ou se préparer à la riposte. La colère, c'est t'es en train de te, tu vas te préparer au combat. Donc en fait, l'émotion, elle te renseigne sur un danger que tu viens de percevoir. Donc au contraire, il faut l'écouter. Et la problématique dans les entreprises, l'exemple typique, c'est la colère, c'est que en fait, celui qui se met en colère, on ne va pas juger ce qu'il est en train de dire, on va juger son comportement. Donc, c'est ce comportement qu'il faut polir, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de l'écouter et d'essayer de voir ce qui a provoqué ça. Et là, dans le cas particulier du commercial, bah, des raisons d'avoir des émotions, il y en a plein. Par exemple, la pression. Il y a énormément de pression chez un commercial, pression du résultat. Alors là, bah, par exemple, il y a un travail à faire entre se déconnecter de son résultat. En fait, tu es responsable de ton process, tu es responsable de tes actes, mais t'es pas responsable à 100% du résultat. Il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Qui pouvait prévoir en 2019 le Covid? Qui pouvait prévoir les conséquences de la guerre de l'Ukraine, etc., etc. Donc, il y en a plein. Un concurrent décide à un moment donné, parce qu'il y a un nouveau directeur commercial qui est arrivé, de brader les prix et puis de venir faire les courses chez toi, bah, tu as tes yeux pour pleurer. Quoi. Donc ça, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et ça, c'est mon côté un peu adepte du stoïcisme. Les choses que tu ne maîtrises pas, bah, tu ne les maîtrises pas. Donc, tu les acceptes. En revanche, agis sur celles sur lesquelles tu peux agir. Donc là, par exemple, par rapport aux résultats, bah, agis sur ton process, sur la façon dont tu te comportes chez ton client, comme on le disait précédemment. Après, tu as la gestion de l'échec. L'échec, en fait, quand on vend, on échoue plus souvent qu'on ne réussit. Tu fais de la prospection, tu prospectes 100 clients, il y en a 20 qui vont te dire oui, a priori, ça m'intéresse et tu vas pouvoir continuer. Ça veut dire qu'il y en a 80 qui t'ont claqué la porte au nez. Bon, faut pouvoir le supporter, surtout quand ça revient régulièrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur les 20, bah, il y en aura peut-être 3 ou 4 qui vont te passer une commande. Ça veut dire qu'il y en a 16 ou 17 pour lesquels tu y as cru, parce que tu es allé dans... Tu as fait une offre, tu as eu plusieurs discussions, etc., etc. Et finalement, il s'est décidé autrement. Et cet échec-là, il est dur, parce que tu y as cru. À la limite, les autres, bon, tu les élimines de ta liste de prospects, mais ceux-là, tu y as cru. Donc, bah, tu te poses des questions. Et là, bah, le travail que je fais avec mes clients, c'est de se dire, tu n'es pas ton résultat, tu n'es pas ton échec. Tu ne te définis pas par ton échec, en fait. Tu as fait ce qu'il fallait. Et, alors déjà, première question, c'est est-ce que tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait? Ça, c'est la première question à se poser. Et si tel est le cas, bah, on ne gagne pas tout le temps, quoi. Et ça, il faut apprendre à le... Faut apprendre à le gérer. Donc c'est plutôt ces choses-là qu'on va gérer que les émotions en soi.
Ouais, je suis parfaitement en phase sur la partie stoïcisme, effectivement, de maîtriser, de se concentrer sur ce qu'on maîtrise et de ne pas se mettre de pression sur ce qu'on ne maîtrise pas. Je pense que peut-être quand on prend un poste commercial, c'est intéressant dès le début de connaître les ratios, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, savoir à peu près combien de ventes on peut faire en fonction du nombre de rendez-vous, les paniers moyens. Et tous ces data, en fait, ça va nous aider à se dire « Ok, j'ai ces objectifs-là. Si je mets tel effort en face, je devrais pouvoir les réaliser. » Ça retire de la pression. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est parfois, on a des objectifs qui sont, même si on met tous les efforts du monde, ne sont pas réalisables. Mais ça, c'est un souci qu'on peut rencontrer dans la vente aussi.
Là, en fait, tu soulèves deux sujets qui sont vachement importants. Le premier, c'est les ratios. Alors ça, je suis entièrement en phase avec toi. Les ratios, ils sont indiscutables. Tu as rappelé combien de fois, tu as contacté combien de clients, tu as fait tel... Ça ne peut pas être discuté. Donc ça, au moins, ça permet d'avoir une base. Et surtout, alors là, je parle plus pour les directeurs commerciaux, ça permet d'avoir des bases comparatives. Parce que ben, ça c'est t'as 100 clients, t'as 100 clients, c'est pas 98, 97 ou 90. Donc ça c'est une première chose qui est importante. En effet, je suis d'accord avec ça. Et puis la deuxième, du coup je l'ai perdue.
Alors j'ai parlé des ratios, des data et du fait que certaines entreprises place des objectifs inatteignables. Oui. Ça peut justement mettre cette fameuse pression dont on parle.
Ouais, exactement. Alors ça, par exemple, les objectifs inatteignables, bon, ça, c'est la discussion éternelle entre le commercial et la direction. Moi, pour moi, ce qui importe, moi, quand je travaille avec mes clients, je les fais réfléchir justement sur des objectifs au-delà de l'année. Le commercial, il est borné sur une année. En fait, il a un objectif pour un an. Moi, je dis souvent aux entreprises, essayez de faire travailler vos commerciaux sur des objectifs à 3 ans, voire 5 ans, disons au moins 3 ans. Parce que quand tu te projettes à 3 ans, bah déjà, tu as moins de pression, c'est psychologique, hein, tu as moins de pression, mais surtout, tu admettras plus facilement ton objectif à un an parce que c'est toi qui l'a déterminé. Souvent, dans les entreprises, on te les fixe, les objectifs. C'est la direction qui dit, voilà, il faut que tu fasses plus de temps. Et en fait, le commercial, tout le mois de janvier, il passe son temps à râler, à dire que les objectifs sont inatteignables, et toute cette énergie qu'il perd à râler, il l'utilise pas à aller sur le terrain. Donc moi, je pense qu'il y a une façon de faire, et c'est de projeter justement les objectifs au-delà de l'année, et puis pas que des objectifs de chiffres, aussi des objectifs sur ce qu'on disait précédemment, des objectifs de structuration, de comment tu fais, de comment est-ce que tu vends, en fait. Moi, j'aime bien poser la question toute bête à un commercial, c'est en fait, comment tu vends? Tu fais comment? C'est quoi ton process? Et souvent, moi, les réponses que j'ai, c'est un regard éberlué et je vois deux gros points d'interrogation au milieu du visage ou des yeux. Je sais pas. Ben, si, tu sais, vas-y, réfléchis. Et donc, ben, pour moi, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on peut agir. Et le résultat, bah, comme son nom l'indique, c'est un résultat. C'est-à-dire, un résultat, c'est la conséquence de ce qu'on a fait. C'est, si on passe aussi du temps sur la façon dont on fait les choses, et je pense que ce n'est pas valable que dans la vente, d'ailleurs, ça, bah, le résultat, il va venir naturellement, moins les impondérables. Mais les impondérables, ils marchent dans les deux sens. On a parlé tout à l'heure des impondérables négatifs, tu as aussi les impondérables positifs. Tu as un client qui dégoulotte son usine ou qui ouvre une nouvelle ligne de fabrication sur ton territoire, bah, coup de bol, tu ne l'avais pas prévu et puis paf, ça te tombe tout cuit. Donc voilà, ça marche dans les deux sens.
Ouais, très bien. Et justement, je voulais qu'on reparle des pensées limitantes. Je me disais, pendant que tu parlais de ça, j'essayais d'avoir des exemples un peu de pensées limitantes de commerciaux. Donc, si tu veux bien, on peut en donner quelques-uns et voir un peu comment on peut le travailler. Moi, je pensais par exemple à la pensée limitante de « je ne veux pas trop relancer mon prospect parce que je vais le déranger ». Et ça, c'est assez typique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on sait que pour conclure une vente, il faut environ 10 points d'accroche, 10 points de contact avec quelqu'un. Et que justement la relance fait qu'un commercial va performer ou non, par exemple.
Ben en fait, relance-le intelligemment. Ouais. C'est souvent ce que j'ai tendance à dire. C'est-à-dire, pour relancer, ça veut dire recontacter ton client. Il faut que tu aies une raison de recontacter ton client. Le client, il n'est pas idiot. Si il a besoin du produit ce matin, il ne va pas attendre pendant 5 jours pour dire « Ah tiens, je vais jouer avec les nerfs de mon commercial. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il se passe quelque chose. » Donc, en effet, si tu l'appelles en disant « Au fait, vous m'aviez dit que… » blablabla, déjà, tu es en train de lui faire un reproche. Donc, tu n'es pas dans une position pour en faire un. Relance-le intelligemment, bah, ça veut dire appelle-le, donne-lui une nouvelle information. Tu as lu un article quelque part, ah bah tiens, j'ai pensé à vous, je vous envoie cet article-là, ou j'ai vu telle chose, j'aimerais bien en reparler. Enfin, trouve un moyen de rester dans la conversation. C'est mon leitmotiv. Là. Si tu prends une vente comme une conversation, eh ben, quand tu relances une conversation, tu ne dis pas « Ah, au fait, la dernière fois, on s'en était arrêté là, je voudrais reprendre le sujet. » Non, tu continues la conversation naturellement. Et quand tu es dans des process de vente, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des process de vente longs qui parfois pouvaient durer un an. Faut trouver les moyens de moyenner. Et je raconte je raconte un épisode, dans un des épisodes de La Voix de la Vente, mais c'est un épisode en double d'ailleurs, tellement ça a duré longtemps, où j'explique en fait que ça doit être La Voix de la Vente met un client en bière. Et ceux qui l'écouteront comprendront pourquoi ça s'intitule comme ça. En fait, ça a duré un an, au final, j'étais en relation avec le décideur, et ce monsieur qui était, il était en train de monter une nouvelle usine, donc il était complètement débordé, et je savais qu'il avait besoin de mon produit, et lui aussi il le savait, c'est juste qu'il fallait trouver le bon moment, parce qu'il fallait tester, c'était dans la pharma, il y a un process assez compliqué pour mettre en place, etc., donc il fallait trouver le bon moment. Et en fait, on s'était donné l'habitude de se contacter pratiquement. C'était devenu un rituel toutes les semaines, tous les 15 jours. On s'appelait, à une époque en plus où il n'y avait pas de portable, etc. Et c'était amusant parce qu'il y avait des moments où on ne parlait pas du tout de produits. On était tous les deux passionnés de foot, donc on parlait de foot. Il me parlait de sa vie. Mais du coup, pendant ces moments-là, il me racontait, sa vie, qui était moyennement intéressante, mais il me racontait aussi sa vie professionnelle. Et il me donnait plein d'informations sur le process, pourquoi c'était ci, pourquoi c'était pas ça, les décisions stratégiques qui étaient prises, parce que c'était une boîte multinationale à l'autre bout du pays, dans un autre pays, etc. Et en fait, cette période-là, c'est une période qui est vachement importante parce que tu vas accumuler des informations. Et toutes ces informations, quand je me suis retrouvé devant ces équipes pour que nos produits soient validés, j'avais un niveau de connaissance qui a épaté parce que les gens se demandaient bien comment je pouvais savoir certaines choses. Je le savais parce que j'avais fait mon boulot correctement. Donc, la relance, la peur de la relance, non, continue à entretenir la relation avec ton client. Mais si tu aimes ton produit et puis que tu sens que ça va le faire et que tu as envie d'aider ton client, ça se fait naturellement en fait, non ?
Ouais, bien sûr. Et effectivement, détecter les signaux d'achat pour relancer vos clients, par exemple, une actualité, une participation à un salon, un recrutement, des choses comme ça, ça peut vous aider à, tout simplement, comme tu l'as dit, à ne pas contacter à blanc ou à ne pas relancer à blanc vos prospects. Je pense à une autre croyance limitante aussi importante dans la vente, la question du prix. Souvent, les commerciaux, peut-être plus les juniors, mais quand on commence à parler du prix, on a l'impression qu'on est en difficulté, que plus on annonce des prix élevés, plus ça va être difficile, alors qu'au contraire, justement, c'est peut-être plus difficile de vendre des petits paniers moyens que des gros paniers moyens à certaines structures. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? J'imagine dans tes accompagnements, tu dois souvent avoir des sujets autour de ce sujet.
Alors ça, c'est la pensée limitante, alors surtout chez les débutants. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience de la vente, par exemple des coachs, des gens qui travaillent dans le développement personnel, qui n'ont jamais vendu. Et alors ça, c'est typique du syndrome de l'imposteur. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'imposteur chez ces gens-là. En fait, à un moment donné, comme tu vends une prestation qui est fortement liée à toi-même, quelque part, tu es en train de te vendre toi-même. Donc, la question, c'est en fait, tu vaux combien ? Et là, tu vois, quand tu commences à creuser là-dedans, alors là, tu as tout un paquet de croyances limitantes qui viennent de choses que... Tu vois, par exemple, il y a des gens qui estiment que vendre cher, c'est arnaquer la personne en face parce que dans leur enfance, on leur a expliqué que gagner beaucoup d'argent, c'était mal. Ça, c'est assez français. On a quand même un gros problème avec l'argent, un tabou. C'est un tabou. Donc il y a beaucoup de choses liées à une relation à l'argent. Donc ça, c'est pour les gens qui débutent. Enfin, qui débutent ou qui n'ont jamais fait de vente. Après, il y a en effet la problématique de comment je fais pour annoncer le prix. Comme si le prix, c'était une mauvaise nouvelle. En fait, c'est juste une information. Tu vas acheter une baguette de pain, la boulangère ou le boulanger, il ne fait pas la gueule quand il te dit que ça coûte 1,35 € la tradigraine. C'est juste quelque chose de naturel. Là, c'est pareil. Alors, en amont, il faut que toi-même, tu sois persuadé, et c'est peut-être là le travail à faire, que ce que tu es en train de vendre vaut bien le prix que tu annonces. Et si tu es à l'aise avec ça, c'est une information comme donner une caractéristique technique du produit. Donc là encore, c'est comme par rapport au résultat, se déconnecter par rapport à ça. Et il n'y a pas d'émotion par rapport à ça. Et d'ailleurs, souvent, tu vois, moi je le vois chez des... J'ai été à un moment donné, là, quand j'ai monté ma première boîte, j'ai reçu des commerciaux parce que je devais construire un atelier. Donc j'ai reçu plein de commerciaux. Et il y avait souvent des commerciaux, ils donnaient le prix, ils se taisaient et ils regardaient ma tête. Et là, je savais que je pouvais négocier parce que le gars n'était pas sûr. Alors que si tu informes la personne, ben voilà, le prix est temps, puis après, ben, tu passes à autre chose, quoi. Tu ne vas pas lui demander, bon alors, je vous en mets combien? Si tu continues et tu le fais naturellement, ben, c'est une information. Et puis de toute façon, après, le client, il y aura peut-être une négociation, ça viendra après, mais c'est, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur se persuader soi-même que le prix qu'on est en train d'annoncer, c'est le bon.
Ouais. Alors, il y a plusieurs écoles hein, sur l'annonce du prix. Je sais que les Américains, notamment, aiment bien marquer le silence après un prix. Il y a d'autres écoles, effectivement, où tu annonces le prix, tu passes à autre chose. Il y a un équilibre à trouver, en fait. Je pense qu'annoncer le prix, passer tout de suite à autre chose, ça peut aussi montrer qu'on n'est pas à l'aise avec ça.
Non, mais oui, alors, je me suis mal exprimé, tu as raison. L'idée, c'est de ne pas faire de l'annonce de l'information du prix quelque chose de particulier. Après, oui, alors est-ce qu'il faut se taire une seconde ou deux secondes ou pas Mais il ne faut pas que ce soit un événement particulier, pas plus que donner la performance d'une machine. Votre machine, elle débite combien à l'heure? Elle débite tant. Tu t'arrêtes pas, en fait. Elle débite tant selon tel critère, selon tel machin. Enfin, t'expliques, quoi. Ben là, le prix, c'est pareil. Tu donnes le prix en même temps que t'expliques pourquoi le prix est comme ça, le bénéfice, le machin. Enfin, tu le fais naturellement, quoi. C'est une information. Et plus tu le fais naturellement, plus, en fait, ça passera inaperçu. C'est pas pour ça que le client va pas revenir derrière en disant, dites donc, on va peut-être négocier, etc. Mais au moins... Toi, tu t'es, t'as pas mis de charge émotionnelle négative sur cette information qui n'est qu'une information.
Très bien. Sur ce sujet, les croyances limitantes, tu en vois d'autres que tu voulais évoquer?
J'en ai un peu parlé. Hein. Il y a le syndrome de l'imposteur, donc j'y arriverai jamais. La peur de rater la commande. Donc, comme ça, tu es quasiment sûr de la rater parce que tu vas être mauvais. La peur d'une personne. Il y a des gens qui sont... Tu es impressionné par un certain type de personne. Ça peut être lié à la fonction, ça peut être lié à l'historique, ça peut être lié à pas mal de choses. Et puis, il y a aussi le... Alors ça, c'est une croyance que j'ai eue quand j'ai démarré. Je pensais qu'il fallait beaucoup parler. Moi, j'ai progressé depuis, sauf aujourd'hui, parce que tu me fais parler, donc tu me mets dans une situation où je parle énormément. Mais d'habitude, je ne suis pas comme ça. Je pensais qu'il fallait parler et que plus on parlait et plus on expliquait, et plus la personne allait se persuader qu'il fallait qu'elle achète le produit. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
Oui, c'est effectivement là aussi dans des études, ça prouvait hein, que effectivement, plus tu parles dans un rendez-vous commercial et moins tu as de chances de conclure la vente. Ouais. Écoute, très bien François, on arrive à presque 40 minutes d'interview. Est-ce que tu veux évoquer encore plusieurs choses ou quelque chose sur le sujet des limites du commercial ou on passe aux questions de la fin?
Non, je pense que c'était assez clair. Moi, je voudrais juste faire un petit peu ma pub là, pour mon podcast. Là,
tu peux nous en parler, ouais.
Qui s'appelle La Voix de la Vente, donc, que j'ai créé en avril 2022, où en fait, justement, donc, c'est des mini-histoires, c'est des histoires de moins de 5 minutes qui sont des véritables anecdotes. Donc, je raconte une histoire d'un vendeur, souvent c'est moi, soit qui fait quelque chose de bien, soit qui fait quelque chose de pas bien. Et en fait, justement, là-dedans, j'aborde tous ces sujets-là et on va faire évoluer ce podcast vers certainement peut-être une newsletter ou quelque chose pour remettre un peu d'enseignement par rapport à ça et amener les commerciaux à y réfléchir parce que chaque situation, tu peux y mettre une pensée limitante. Je me suis amusé à demander à des copains de m'en citer quelques-unes. J'en ai rempli 10 pages. Donc, c'est vraiment prégnant. Mais donc, je pense qu'il y a pas mal d'informations à prendre en écoutant ce podcast chaque jeudi pendant 5 minutes. Où là, justement, on est en plein dans pensées, croyances limitantes.
Oui, avec des formats de 5 minutes, c'est vrai que c'est pratique. Vous pouvez écouter ça rapidement avant de commencer une journée de travail ou après.
Exactement.
Pour vous détendre.
Donc, c'est
parfait. Ouais. C'est vrai que ces formats-là, c'est intéressant. Là, je viens de tester un nouveau format de 10 minutes, moi, où je parle d'un outil pour les commerciaux. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi, les conseils. Un peu comme fait Miguel Aguilar aussi sur des petites capsules autour de la vente.
Ouais. Ouais.
Bah, écoutez, allez écouter ça. Je vais te poser les 5 questions que je pose à tous les invités. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter dans l'entrepreneuriat ou la vente ?
L'écoute. J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait écouter. Et surtout à comprendre comment il fallait écouter et ce que ça signifiait véritablement. Écouter, c'est pas simplement se taire. Enfin, ça commence par se taire, mais ça va au-delà de ça en fait. C'est faire preuve d'empathie et c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ce qui fait que il me fait telle objection. Tu vois, par exemple, il y a un sujet dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est les objections. Les objections, on les prend souvent comme des baffes dans la figure. En fait, c'est une mine d'informations. Un client, il ne te fait pas une objection parce qu'il ne t'aime pas. Il te fait une objection parce qu'il réfléchit à ce que tu viens de lui expliquer, ce qu'il en a compris, et il se dit, là, ça ne va pas coller dans mon process pour telle ou telle raison. Et ça permet, au contraire, de corriger le tir, etc. Donc, entendre les objections et ne pas être, par exemple, dans une posture de « je sors ma Kalachnikov et je lui explique en quoi il est idiot, il n'a rien compris du tout, parce qu'en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement », c'est pas la bonne attitude. L'écoute, à ce moment-là, se dire « tiens, c'est marrant, pourquoi il me pose cette question ? Pourquoi il me dit ça ?» Et d'ailleurs, tu peux lui demander « tiens, pourquoi vous me dites ça ?» Et là tu es véritablement dans l'écoute, dans la discussion, dans la conversation qui fait que tu avances. Et moi, en fait, cette écoute, c'est ça, en fait, qui m'a permis de monter ma première boîte. Parce que quand j'ai monté ma première boîte en 2007, je me suis dit, je vais aller vers des clients que je connaissais, des gens que je connaissais. Je vais les interroger sur le besoin qu'ils avaient et je vais mettre en place des solutions qui correspondent exactement à ce qu'ils recherchent. Et ça, j'en suis particulièrement fier parce que c'est pour moi la quintessence de la vente. Vendre exactement le truc que le client souhaite avoir. Et c'est comme ça que j'ai développé un atelier de reconditionnement de poudre où au départ, les ingénieurs qui étaient sur la première table de réunion m'ont dit « bon, si je comprends bien, on va sous-traiter une activité à une société qui n'existe pas, qui n'a pas d'atelier ni de système qualité. » Je dis oui, vous avez raison, mais je vais faire exactement ce que vous voulez, donc maintenant dites-moi ce que vous voulez. Et c'était génial, c'était vraiment génial. Et là, pour le coup, il fallait tout écouter parce que je n'avais rien en face. Et c'est un excellent exercice.
Ok, écoute, merci François pour ce retour d'expérience. En termes de compétences, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé avoir plus tôt et une autre aujourd'hui que tu rêverais d'avoir ?
Justement, l'écoute, c'est une compétence que j'aurais aimé avoir plus tôt, ça je l'ai déjà dit. Pour moi, les compétences, si on veut les avoir, on peut les avoir. C'est une question de travail et de discipline. C'est pas une question de rêve. Si tu rêves d'avoir une compétence particulière, arrête de rêver, donne-toi les moyens d'y arriver, tu y arriveras. Les compétences, ça s'obtient, en fait. Le rêve, c'est plutôt d'avoir le don d'ubiquité ou de pouvoir me déplacer facilement sans avoir à passer des heures au volant de ma voiture, dans un avion ou dans un train. Ouais, ça, c'est un rêve, ouais. Mais les compétences, c'est travail, discipline, et on les acquiert.
Ok, très bien. Est-ce qu'il y a, alors ça c'est une question que j'ai empruntée à Tim Ferriss, est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 euros qui t'a changé ta vie ?
Bah, moi, c'est des bouquins, en fait. C'est des livres. Il y a plein de livres qui m'ont ouvert les yeux sur ces choses-là. Bah, quand j'ai travaillé pendant 3 ans aux États-Unis, donc j'ai lu pas mal de... C'était justement avant que je rentre en France pour monter ma boîte. Donc là, j'ai lu pas mal de livres basés sur le marketing qui étaient super intéressants. Il y en a deux en particulier que je conseille. Le premier, c'est un livre de Tim Galloway qui s'appelle « Le jeu intérieur du tennis ». En fait, c'est un livre qui explique… en général, les coachs, c'est un livre qu'ils lisent, qu'ils devraient lire. C'est un livre qui explique, en fait… et je pense, tu vois, par exemple, Djokovic, ça doit être il doit le connaître par cœur, ce livre, parce que c'est en fait comment arriver à tellement maîtriser ton art, donc là, en l'occurrence, le geste du tennis, la technique du tennis, que tu réussis, en fait, à déconnecter ton mental, et les gestes se font, en fait, naturellement. Et comme ils se font naturellement, bah, ils se font de façon parfaite. Et je pense que c'est la différence entre, par exemple, un joueur excellent comme Djokovic et un bon joueur de tennis. Et ça, c'est marrant parce que moi, quand j'ai appris à jouer au tennis, bon, j'ai jamais eu le niveau de Djokovic, c'est pour ça que je suis devenu vendeur, mais mon père m'avait appris, et je le raconte dans une histoire de la voie de la vente, m'avait appris à faire ça, en fait. Il m'avait dit, ce qui est important, c'est d'avoir le beau geste. Et quand je mettais la balle dans le filet et que j'avais le beau geste, il me félicitait. Et quand je la mettais dans le court et que le geste n'était pas beau, il ne me félicitait pas. Et en fait, il a eu raison parce que à partir du moment où tu acquiers cette maîtrise de la technique, bah, ton mental ne pense plus. Il n'est plus en train de se dire, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je me tourne, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, ça se fait naturellement. Et là, du coup, bah, tu deviens... Tu sais, c'est ce qu'on appelle le flow. Ça arrive parfois, tu fais une réunion avec un client, tu ne vois pas le temps passer, tu es bon, tu dis les choses que tu dois dire au moment où tu dois les dire, tu fais les trucs que tu dois faire au moment où tu dois les faire. C'est ça. Et donc, Tim Galloway, là, il en parle dans son bouquin. Et puis, le deuxième, c'est pas un bouquin, c'est plusieurs bouquins de Eckhart Tolle, qui est un philosophe qui vit aux États-Unis maintenant. Et lui, il est un adepte du présent, du moment présent. Et en fait, c'est la même idée. C'est pour te déconnecter de ton mental et te déconnecter de ton ego. Soit dans le présent. Et en fait, être dans le présent, c'est vraiment être dans le présent. Et tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'écoute, et quand je disais l'écoute, ça va au-delà de simplement avoir ses deux esgourdes bien ouvertes et écouter ce que dit le client, c'est être présent. C'est-à-dire que quand tu es dans la réunion avec ton client, tu n'es pas en train de penser à ce que tu vas lui dire tout à l'heure, tu n'es pas en train de penser qu'il va falloir que tu convainques la direction commerciale, qu'il faut faire un produit un petit peu différent, etc. Et tu n'es pas en train de penser à la dernière défaite que tu as eue chez le client d'avant. Tu es là tout de suite, en face de lui, et tu es focus sur le moment que tu es en train de vivre avec lui. Et quand tu es comme ça, bah, tu es bon, en fait. Tu es bon parce que bah, tu entends, tu vois, tu constates et tu rebondis naturellement, en fait. T'es pas du tout en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Tu es en train de dire les choses bah, comme tu dois les dire à ce moment-là. Tu es bah, à nouveau dans le flow, quoi. Donc c'est deux livres qui parlent en fait du fait d'être présent à l'instant. Bah, un peu comme moi, je l'ai été là, cet après-midi. Là, tu vois, je n'étais pas en train de penser à ma liste de courses de ce soir. J'étais dans l'instant présent et en fait, en plus, t'en retires du plaisir parce que c'est intéressant, quoi. Tu te rends intéressant. Enfin, j'espère que je l'ai été pour les auditeurs, mais moi, je me sentais bien.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bouquins dans ce podcast, mais autour de la vente, ceux-là, je les ai pas eus. Donc, merci pour la référence. On les mettra dans les notes du podcast. Et il me reste une toute dernière question, François. Si tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes qui ?
Eh bien, écoute, moi, il y a un monsieur que j'adore qui s'appelle Yann Gourvennec. Je ne sais pas si tu le connais.
Alors, oui, je l'ai vu passer sur LinkedIn plusieurs fois.
Alors lui, il a plein d'armes à son, plein de cordes à son arc. Et bon, déjà, il est vendeur au départ. Il a fait de la vente, la vraie vente, c'est celle où tu vas chez des clients. Tu n'es pas derrière un ordinateur, tu vas chez des clients, tu es en face d'un humain et tu essayes de le persuader qu'il faut qu'il prenne ton produit. Il connaît très très bien le marketing digital. D'ailleurs, il vient d'écrire un livre, vient de sortir un livre qui, ben, j'aurais pu le citer aussi, tiens, qui s'appelle le marketing digital de A à Z. Et donc, il connaît très bien le marketing, il connaît très bien le digital. Et c'est quelqu'un qui est plutôt de ma génération, donc qui a une grande expérience, un grand recul, une grande réflexion. Et il anime un podcast aussi qui s'appelle Digital Marketing ou quelque chose comme ça. Visionary Marketing. Voilà, Visionary Marketing. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être écouté et interviewé. Parce qu'il parle intelligemment de la vente, ce qui est toujours bien.
Ouais, très bien. Bah, écoute, je vois en plus qu'il est photographe professionnel.
Ouais, alors ça, c'est la dernière corde qu'il a sans rien. Il fait des photos magnifiques. Mais tu vois, mais ça, c'est pas un hasard. Quand tu es dans ce domaine de la vente, du marketing, etc., bah, tu as développé aussi un talent qui se rapporte au cœur.
Exactement,
Et
exactement.
là, en plus, il y a l'œil dans son cas, lui. Mais l'œil fait partie de l'écoute.
Ouais. Ben écoute, François, je le contacterai de ta part et pourquoi pas l'inviter dans le podcast. On peut te joindre où si on souhaite bénéficier de ton accompagnement?
Bah écoute, le numéro de téléphone 06 79 04 62 66. Et puis par email, c'est wearecoach, donc ça fait we comme le oui américain, point R-A-R-E, coach, coach, point fr, François Rollin, at gmail.com.
Ok. Bah écoute, n'hésitez pas à contacter François, à partager cet épisode si celui-ci vous a plu. Et bah écoute, François, bonne continuation, bonne vente. Merci
Merci,
encore.
merci, merci. Et merci de m'avoir invité. C'est un bon moment.
Ouais, bah c'était très bien. Merci à toi, François. À bientôt.
Ok, salut.
Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesherodelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous!